Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans notre studio, j'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Claude Dagens de l'Académie française, évêque d'Angoulême, auquel j'ai demandé, au moment de ces fêtes de Pâques, de nous parler du catéchuménat. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci de nous accorder un peu de temps en ce jeudi qui est votre jour académique et vous avez beaucoup d'activités académiques aussi. Juste avant la séance avec vos confrères, si vous le voulez bien, je voudrais m'adresser aux membres de l'Académie française que vous êtes tout d'abord en vous demandant le mot catéchuménat, quelle est son étymologie et son origine ?
Dans le mot catéchuména et catéchumène, il y a, on l'entend facilement, le terme de écho. Écho, parce que la parole de Dieu, la parole que Dieu nous adresse librement, si nous écoutons, elle demande à être reçue et à faire écho. Et le catéchuména, de même que la catéchèse, ce sont les mêmes racines, ce sont dans l'Église les activités, les rencontres, les pédagogies qui ont pour but de faire écho à la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle est transmise pour faire écho dans le cœur et les consciences de jeunes ou d'adultes, d'hommes, de femmes, à travers la catéchèse, et elle reçoit des échos, elle est reçue et elle fait écho dans le cœur et les consciences de ces hommes et de ces femmes qui se préparent au baptême, pour la veillée pascale, et que l'on appelle des catéchumènes, et qui y ont été baptisés, deviendront, je continue l'étymologie, des néophytes, c'est-à-dire des renés, du verbe grec qui signifie naissance, qui seront renés de l'eau et de l'esprit à travers le baptême. Donc nous sommes là dans le langage profondément traditionnel et en même temps profondément réel de la renaissance de Dieu à travers le baptême, avec l'écho de la parole de Dieu qui germe dans les existences humaines.
Et justement, puisque vous parlez de tradition, c'est un peu à l'historien des origines chrétiennes que vous êtes que j'aimerais poser la deuxième question. Dans un contexte tout à fait différent, celui des trois premiers siècles, disons avant la réforme de Constantin, quel était le rite du catéchuménat ? Était-il identique avec les persécutions et aussi avec le contexte des hérésies ?
D'abord, la première réalité, c'est que les premiers chrétiens, les premières générations chrétiennes, les membres des premières générations chrétiennes sont tous des convertis. Ce sont des hommes et des femmes qui ont découvert le Dieu de Jésus-Christ et qui reçoivent le baptême, pour la plupart, à l'âge adulte. Même si le baptême des enfants, étant donné l'importance des relations familiales dans la société romaine, le baptême des petits-enfants, des bébés, a été une pratique largement répandue dès le début. Mais il est évident que ce sont des hommes et des femmes adultes qui, pour la plupart, découvrent l'Évangile, écoutent l'Évangile, découvrent la parole de Dieu, sont appelés à la conversion et reçoivent le baptême. Et c'est vrai, de tous les grands évêques des premiers siècles sont eux-mêmes des convertis. Ils ont rencontré le Christ. Ignace d'Antioche, évêque de Syrie et martyr à Rome, ou bien nous sommes au IVe siècle, c'est-à-dire après la conversion de Constantin, Hilaire de Poitiers, lui-même un bourgeois et un propriétaire de la ville de Poitiers, qui a beaucoup lu et puis qui est tombé un jour sur le récit du buisson ardent et sur le prologue de Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Il a découvert la foi, il reçoit le baptême à l'âge adulte. De même qu'un illustre évêque du IVe siècle, de la deuxième moitié, qui sera le maître spirituel d'Augustin, l'évêque de Milan, Ambroise. Ambroise était préfet de police de Milan, il avait du travail parce qu'il y avait des émeutes dans la ville et des divisions entre les membres de la communauté chrétienne, les Ariens et les autres. Et Ambroise, connu comme préfet de police, mais en même temps connu comme quelqu'un qui se prépare au baptême, on le demande comme évêque. Et il n'était pas baptisé. Il sera baptisé et aussitôt, après avoir été baptisé, ordonné évêque. Autrement dit, la conversion au mystère de Dieu en Jésus-Christ fait partie de l'expérience chrétienne des premiers siècles. Elle fait partie également de l'expérience chrétienne des communautés chrétiennes d'Afrique ou d'Asie aujourd'hui. Mais nous avions oublié cela. Et il est très heureux qu'aujourd'hui, il y ait un nombre important d'adultes qui demandent le baptême et qui viennent réveiller les anciens baptisés que nous sommes et qui peut-être ont oublié à quel point la rencontre de Dieu, c'est le plein sens de l'existence chrétienne et du baptême dans le cadre de l'existence chrétienne comme une source.
Justement, l'évêque que vous êtes, évêque d'Angoulême, je suppose que vous avez aussi des catéchumènes dans votre diocèse. Alors, d'une manière nationale, quel est à peu près le nombre d'adultes qui demandent le baptême en ce moment ?
Il y a actuellement, je crois que c'est de l'ordre, je peux me tromper, mais de l'ordre de au moins 10 000 personnes qui, en France, se préparent au baptême à des étapes diverses. Sans oublier d'ailleurs qu'il s'agit de la préparation à la vie chrétienne. À travers les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont trois, le baptême, l'Eucharistie, la communion au corps du Christ. Et pour les catéchumènes, la communion au corps du Christ compte autant que le baptême et le sacrement de confirmation, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint qui fait des chrétiens des témoins du Christ. Donc les trois sacrements de l'initiation chrétienne, il y a actuellement plus de 10 000 personnes qui sont à des étapes diverses de la préparation au baptême. Et je crois, je n'ai pas la religion des chiffres et je pourrais me tromper, mais je crois qu'il y a actuellement, chaque année, au moins 3 000 personnes adultes qui reçoivent le baptême. Et sans oublier le baptême des petits-enfants qui continuent. Et également le baptême des enfants d'âge scolaire. Dans mon diocèse, je crois qu'il y a eu l'année dernière, autant que je me souvienne, à peu près 2000 baptêmes. Et près d'un quart, entre un quart et un tiers, d'enfants entre quelques mois et 7 ans. C'est-à-dire des bébés et des jeunes d'âge scolaire. Et également des adultes. Et des adultes en nombre très augmenté. L'année dernière, il n'y avait qu'un catéchumène. Cette année, ils sont 14. Et je leur ai consacré beaucoup de temps, avec beaucoup de joie, ces derniers jours. L'autre samedi, j'ai passé tout l'après-midi avec ces femmes et ces hommes. On en parlera tout à l'heure. Ces femmes et ces hommes et les équipes qui les accompagnent, car chacun et chacune est accompagné par un certain nombre d'hommes et de femmes déjà chrétiens qui les aident à s'acheminer, à se convertir, qui sont témoins du travail de Dieu. Et puis, dimanche dernier, comme tous les évêques probablement, nous avons fait la démarche qui précède le baptême, l'appel décisif dans la cathédrale. Ces hommes et ces femmes étaient là, ils sont arrivés une heure avant, alors que les paroissiens habituels n'étaient pas là une heure avant, dans la cathédrale. Et puis, au nom de l'Église, j'étais heureux, dans le cœur de la cathédrale, de les appeler. Et chacune et chacun est venu inscrire son nom. Et il y avait parmi eux une Africaine qui sait à peine écrire, mais qui a griffonné un beau dessin pour indiquer son nom, une Togolaise. Il y a des gens de provenances diverses et c'est une immense joie, nous allons en parler, d'abord de recevoir les lettres de ces personnes.
Elles font une demande, elles s'adressent à l'évêque pour demander le baptême.
Chacun et chacune écrit une lettre personnelle à l'évêque, que je suis comme à tous les évêques, pour raconter leur histoire personnelle et expliquer autant qu'il est possible de quelle manière elles ont répondu et elles répondent à un appel de Dieu. En vue du baptême qu'elles vont recevoir pendant la veillée pascale de cette année 2011.
Alors vous parlez d'un cheminement, puisqu'il y a diverses étapes, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est ce cheminement justement ? Il s'étale sur combien d'années et quelles sont les étapes importantes ?
Chaque cas est unique, mais globalement, au début, quand ces hommes et ces femmes viennent trouver un prêtre et des chrétiens pour demander le baptême, ils pensent que ça va se faire dans les semaines qui viennent. Et on leur explique qu'il sera très bon pour eux-mêmes de découvrir la parole de Dieu, de découvrir en même temps les grands éléments du catéchuménat, c'est-à-dire là, ouvrir la parole de Dieu, accepter de convertir sa vie dans tous les domaines, fréquenter l'Église, avoir une relation habituelle avec la communauté chrétienne, et puis être initié à la prière et à la vie sacramentelle. Ce sont les quatre grands avenues, les quatre grands domaines de l'initiation chrétienne. Et au bout de quelques semaines, ils comprennent très bien qu'il faut du temps. Et le temps est généralement de 2 ans ou 3 ans avant de recevoir le baptême. Avec, en même temps, des moments très précis qui sont prévus par le rituel de l'Église, qui est plein de sagesse. Il y a d'abord l'entrée en catéchuménat, qui sera célébrée habituellement dans la communauté paroissiale. Et puis, il y aura donc le temps du catéchuménat, et puis alors le temps avant le baptême, l'appel décisif à la cathédrale, avec la communauté chrétienne, des paroisses auxquelles ils sont reliés, et puis, pendant le carême, qui précède le baptême, ce que l'on appelle les scrutins. Une réalité, les scrutins, ne nous confondons pas avec les élections, même si elles sont cantonales, puisqu'elles vont avoir lieu prochainement. Les scrutins, ça veut dire que durant les 3e, 4e et 5e dimanches de carême, en relation avec la parole de Dieu que l'on entendra, la conversion de la femme de Samarie, qui a eu cinq maris et qui a un autre compagnon, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare, ces hommes et ces femmes, sur le chemin de leur baptême, vont bénéficier d'un geste particulier, personnel, de bénédiction et d'exorcisme. Et d'exorcisme, je leur ai expliqué encore fortement dimanche dernier, nous croyons que Satan existe, qu'il agit, mais qu'il est vaincu. Donc on n'en fait pas une force du mal qui serait l'antagoniste de Dieu. Il est vaincu, mais il peut agir. Et donc, nous prions, le prêtre ou l'évêque va prier en imposant les mains à ces personnes pour qu'elles soient délivrées de toute emprise du mal. Et elles comprennent très bien cela, parce que dans l'expérience, il est évident dans tous les cas que d'une manière ou d'une autre, ces hommes et ces femmes, 30 ans de moyenne, beaucoup de jeunes mères de famille ou de jeunes pères de famille, ces hommes et ces femmes ont traversé des périodes très obscures et très dures, de toutes sortes de manières, notamment dans le cadre familial, avec des phénomènes innombrables de ruptures, de séparations, d'abandon, de souffrances, et quelquefois également des phénomènes très marqués d'addiction, comme on dit, c'est-à-dire l'expérience de la drogue, l'expérience de la dureté de la vie, de la mort de personnes aimées.
Il y a une vraie conversion. Alors,
et c'est à travers cela, oui,
à travers l'épreuve,
oui,
ils comprennent.
La conversion n'est presque jamais une illumination subite. Je suis très frappé, moi-même je l'aurais imaginé, mais je vois depuis des années, ces personnes, ces hommes et ces femmes, disent eux-mêmes et disent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes qu'en demandant le baptême, ils répondent ou elles répondent à un appel de Dieu qui vient de très loin. Ils ont la conviction que l'appel de Dieu a toujours été présent en eux ou en elles, mais que jusque-là, ils n'avaient pas pu répondre. Et qu'un autre élément intervient la plupart du temps, il y a près d'eux une personne qui est comme un relais vivant de Dieu. Un compagnon, une compagne, un conjoint, une conjointe, un mari, une femme.
Qui aide à prendre la décision.
Qui est un témoin de Dieu. Qui ne pousse jamais à la décision, mais qui est un témoin de Dieu. Et à travers cette personne, c'est quelquefois des grands-mères ou des grands-pères. Souvent des grands-mères, pour des femmes, notamment des jeunes mères de famille. Ou aussi, c'est la naissance d'un enfant et le baptême de l'enfant qui va appeler ces femmes. C'est souvent le cas, c'est la naissance de l'enfant qui les appelle eux-mêmes ou elles-mêmes à, elles le diront volontiers d'ailleurs, renaître de Dieu. Renaître, néophyta, enfin la renaissance. Et la réalité de la renaissance, alors que nous, déjà baptisés, nous ne comprenons pas toujours très bien, eux comprennent très bien. Nous sommes nés selon la chair et le sang de nos parents, être appelés avec notre chair et notre sang à renaître de l'amour de Dieu, de l'eau et de l'Esprit Saint, comme Jésus l'explique à ce vieux docteur juif qui s'appelle Nicodème. Renaître, tu ne vas pas revenir dans le ventre de ta mère. Comment renaître, lui demande cet homme. Tu ne vas pas revenir dans le ventre de ta mère, lui dit Jésus. Il faut, tu es appelé à renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Et ces personnes comprennent très bien cela. D'autant plus qu'elles sont blessées très souvent dans leur chair et dans leur sang, de femmes et d'hommes.
Vous avez parlé d'accompagnateur ou d'instructeur. Y a-t-il une différence? Comment ces gens sont-ils choisis?
Ils sont choisis par ces catéchumènes. Ils sont choisis avec deux éléments majeurs. Des personnes qu'ils connaissent déjà dans leur entourage familial ou parmi leurs amis et parmi des membres de la communauté chrétienne. Parce que l'enjeu, et il n'est pas toujours facile à comprendre comme un défi à relever pour les communautés chrétiennes, c'est que les communautés chrétiennes habituées comprennent que ces hommes et ces femmes nous sont donnés par Dieu comme des appels. Ils nous appellent à devenir nous-mêmes plus radicalement chrétiens, c'est-à-dire vivants de la Pâque du Christ. Je n'en ai pas encore parlé, mais de même que la Renaissance, mort et résurrection, ça parle pour ces femmes et ces hommes. Plus ils ont été blessés, plus la Pâque du Christ, c'est-à-dire la vie qui jaillit de la mort, le signe de la croix de Jésus, c'est-à-dire, non pas d'abord la mort, mais la victoire sur la mort. La victoire sur la mort et sur le mal, ils savent, ils aspirent à connaître cette victoire sur le mal et la mort qui passe par le mystère pascal de Jésus-Christ. Donc il y a une expérience chrétienne qui réveille l'expérience des communautés. Et nous faisons en sorte que les paroisses auxquelles ils sont liés, où ils habitent habituellement, puissent trouver en leur sein des hommes et des femmes qui vont non seulement les accueillir, mais être heureux de les accompagner jusqu'au baptême et au-delà du baptême. Notamment si le sacrement de confirmation, ce qui est possible, est donné au-delà de la veillée pascale. Dans mon diocèse, par exemple, nous avons décidé, comme notre diocèse le font, qu'il y aura une célébration de la confirmation des adultes pour la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, nous continuons le chemin de la vie chrétienne.
C'est un baptême donc qui est réservé aux adultes, mais lorsqu'on est adolescent, qu'on a 16 ans ou 18 ans, on est considéré comment ? Comme un adulte, je suppose. À partir de quel âge on n'est plus dans le baptême d'enfant ?
Oui, enfin, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle absolue. Il y a des baptêmes d'adolescents et d'adolescentes, mais généralement, les demandes de baptême des jeunes se présentent surtout autour de l'âge de 10 ans. À travers la catéchèse ou à travers des camarades ou à travers des événements familiaux. J'ai moi-même baptisé il y a quelques années un petit cousin de ma famille qui n'avait pas été baptisé pour diverses raisons liées au contexte familial et il avait 12 ans lorsqu'il a été baptisé. Donc il y a des baptêmes d'adolescents et d'adolescentes. Baptême d'adultes, globalement, si vous voulez, comment dire, une référence chiffrée, mais elle a une valeur relative, autour de la vingtaine d'années. La majorité de ces personnes, et je pense que c'est la moyenne nationale, c'est autour de 30-35 ans, avec une majorité de femmes qui vivent souvent dans des milieux urbains ou périurbains, mais également en milieu rural. Enfin, c'est le cas dans mon diocèse où il y a des personnes d'Angoulême, de la périphérie, notamment difficile d'Angoulême, et aussi de secteurs de la Charente-Limousine à la région de Cognac.
C'est un phénomène qui est en progression par rapport à il y a une cinquantaine d'années, disons. Comment l'analysez-vous ?
En effet, c'est un phénomène, c'est-à-dire quelque chose qui, au sens propre, qui apparaît. Un événement, d'une certaine manière, c'est-à-dire quelque chose qui advient, qui surgit, qui émerge à la surface de la vie de l'Église. Il y a toutes sortes d'éléments, c'est que il est bon, on ne me fera pas dire que la règle devrait devenir le baptême des adultes et qu'on refuserait le baptême des enfants. Ce n'est pas vrai. Et je connais beaucoup de jeunes parents qui sont très profondément heureux, non seulement de donner à vie à un enfant, mais de le présenter au baptême de l'Église. Et il y a aussi de nombreux baptêmes de petits-enfants, de bébés. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour une raison, pour faire bref, la grande rupture de transmission et de tradition qui est intervenue au cours des années 65-75, la foi chrétienne, la réalité chrétienne, je crois, je le dirai une fois de plus, elle n'est pas rejetée ni combattue, elle est ignorée. Et donc, il y a des hommes et des femmes jeunes qui n'ont absolument rien entendu dire de la réalité chrétienne, sinon quelquefois des bêtises ou des caricatures, et qui découvrent, à travers des événements de leur vie personnelle, là c'est pas seulement par influence, c'est parce qu'il y a eu dans leur existence des événements marquants qui leur posent la question, je ne dirais pas trop facilement du sens de leur vie, mais qu'est-ce qui tient vraiment ? Qu'est-ce qui fait tenir ? Et puis qui est Dieu ? Et à cette question, ce n'est pas seulement une découverte. Ils comprennent, à 20 ans ou à 30 ans, que même dans des moments extrêmement difficiles, dans les brisures de leur vie, ils n'ont pas été abandonnés. Et donc, le baptême, la demande de baptême, représente comme un acte de reconnaissance de ce qui leur a été déjà donné et dont ils avaient une certaine conscience. Blondel a écrit de très belles choses sur ce passage à la reconnaissance. C'est pas simplement dire ça, comment dire, on reconnaît ce qui était déjà là, mais en même temps, on franchit un seuil qui permet de répondre à une présence qui était déjà réellement présente à l'intérieur du cœur, de la conscience et même du corps.
À votre connaissance, y a-t-il beaucoup de catéchumènes qui viennent d'autres religions ?
Il y en a, je ne saurais pas dire de chiffres, mais pas dans le groupe de mon diocèse de cette année, encore que la personne d'origine africaine a beaucoup de musulmans dans sa propre famille. Il y a des musulmans et des musulmanes, enfin des hommes et des femmes de tradition musulmane, qui découvrent la foi chrétienne. Et je me souviens encore, je pourrais raconter des histoires vraies à ce sujet, il n'y a pas eu d'influence, mais il y a eu, je pense à telle personne de tradition et de famille musulmane, qui a rencontré des amis portugais, portugaises, Et elle a vu vivre ces hommes et ces femmes de famille portugaise, elle les a vus vivre en chrétien, et je l'entends encore dire, et j'ai compris que leur Dieu était bon. Et je n'oublie pas que le Dieu de l'islam se dit le miséricordieux. Mais elle a vu des personnes vivre en chrétien et en
chrétienne. La force du témoignage.
La force du témoignage. Et elle a demandé, c'était une de ces personnes qui venait d'assez loin d'ailleurs, qui était sa marraine le jour du baptême. C'est moi-même qui l'ai baptisé, je vois encore qu'il venait d'assez loin, ça se passait à Cognac et c'était d'une autre région de France, et je vois encore. Et alors, contrairement à ce qu'on raconte aussi quelquefois, ces personnes baptisées, on dit quelquefois, ensuite les communautés chrétiennes ne les voient plus. Ce n'est pas vrai. Si les communautés chrétiennes comprennent l'importance de ces personnes et de l'événement de leur baptême, de leur communion au corps du Christ, de leur confirmation. Si les communautés chrétiennes le comprennent, alors ces personnes continuent à être liées à des communautés chrétiennes et elles peuvent y apporter beaucoup. Si nous-mêmes, nous comprenons qu'elles peuvent y apporter beaucoup.
Justement, j'allais vous poser cette dernière question, Monseigneur. Quelle importance l'Église de France, disons, ou l'Église en général, accorde-t-elle à ses catéchumènes et aux catéchuménats ?
Une grande importance pour une raison majeure. C'est que nous avons, pour diverses raisons qui sont justifiées, nous sommes convaincus que nous vivons des temps difficiles pour la transmission de la foi. Les parents, les grands-parents qui font ce qu'ils peuvent et puis qui constatent que la foi qu'ils voudraient transmettre n'est pas transmise, n'est pas reçue. Donc nous vivons des temps difficiles pour la transmission de la foi, le contexte de la sécularisation qui fait que la tradition chrétienne n'est pas spontanément reconnue, qu'elle n'est pas sur la place publique, qu'elle a des difficultés à s'exprimer, n'y revenons pas. Donc des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps d'affaiblissement incontestable des institutions catholiques. Mais en même temps que nous vivons ces temps d'affaiblissement, nous vivons des temps de renaissance. Et les catéchumènes, les hommes et les femmes qui marchent vers le baptême, qui découvrent le mystère du Christ, qui veulent vivre du mystère du Christ, dont la vie est en train de changer, beaucoup de ces personnes disent en particulier, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, j'apprends à pardonner. C'est le cas de beaucoup d'entre elles dans la mesure où il y a eu beaucoup de brisures familiales dans leur histoire. J'apprends à pardonner. Ces hommes et ces femmes vivent des renaissances et obligent les chrétiens habitués, l'Église ordinaire, à comprendre qu'elle est appelée, elle aussi, dans son ensemble, à vivre, à renaître de Dieu à l'intérieur, sans dire il y a le monde des difficultés, puis il y aurait le monde des renaissances. Non, à l'intérieur même des difficultés et des blessures, il y a le don de Dieu qui nous fait renaître de lui. Et c'est le chemin de Pâques.
Monseigneur, merci de votre présence. Et si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter maintenant le témoignage d'un catéchumène. Il s'appelle David, il a 37 ans. Depuis un an et demi, il suit la formation des catéchumènes pour adultes. Il recevra le baptême, comme il est de tradition chez les chrétiens, dans la nuit de Pâques, le 23 avril 2011. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de votre présence aussi dans notre studio. Vous venez de la région d'Auxerre.
Tout
vous
à
avez
fait.
Suivi des études en sciences médicales, en électronique. Et vous êtes un catéchumène, comme l'a expliqué Monseigneur d'Agen, c'est-à-dire un adulte qui suit la formation parce qu'il a demandé le baptême. Vous n'aviez reçu aucune formation religieuse étant enfant ?
Jusqu'à présent, non. Non, je n'ai jamais eu d'éducation religieuse étant enfant dans le domaine catholique, non.
Est-ce que vous vous sentiez habité néanmoins par une soif spirituelle ?
Oui, tout à fait.
Quand vous étiez adolescent, par exemple ?
Oui, oui, je le ressentais déjà à ce moment-là, très fortement, oui, oui. C'est vrai que ça s'est pleinement révélé, là, maintenant.
David, quel fut le facteur qui a déclenché votre conversion au christianisme ?
Eh bien, en fait, pour tout vous dire, le facteur principal déclenchant pour moi, ça a été le baptême de mon filleul, donc, qui a eu lieu le 29 mars en 2009. Alors, en fait, c'est...
C'était un petit filleul, un bébé,
voilà,
je suppose.
Tout à fait, oui. Quand il a été baptisé, il avait donc 3 mois.
D'accord.
Et en fait, c'est le fils d'une amie que je connais depuis maintenant un peu plus de 30 ans, qui habite dans la région de Lyon, pas très loin de chez moi, donc dans la région d'Auxerre. Et puis, vu notre amitié qu'on a depuis de très longues dates, elle tenait absolument à ce que je sois le parrain de son fils. Voilà,
Et c'est lors de la cérémonie, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Et en fait, tout s'est déclenché en moi le jour même de la cérémonie. J'ai ressenti brutalement ce jour-là, ça a été pour moi une révélation totale. J'ai véritablement ressenti la présence du Seigneur, totalement là, à côté de moi, devant nous.
C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, au fond, ce que l'on ressent ?
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile. Ça peut être difficile à expliquer, oui, oui, oui. C'est pas évident, mais c'est quelque chose de très fort, de merveilleux.
Et vous n'avez plus hésité, il fallait que vous deveniez chrétien.
Ah oui, ah, pour moi, ça ne faisait aucun doute. Ça, c'était clair en moi, oui. Oui, oui.
Alors, au sein de ce christianisme, vous avez choisi l'Église catholique particulièrement. Pourquoi? Y a-t-il des raisons?
Non, je ne vois pas de raison particulière, mais c'est une confession qui est très élargie, très développée dans notre culture européenne, dans notre culture française, européenne, si on veut parler en de plus large termes. Donc, ça a été pour moi naturel de m'orienter vers la religion catholique.
C'est vrai que vous habitez une terre où on est anciennement catholique,
oui,
dans
voilà,
cette région, avec de très belles églises.
En effet, je confirme.
Avez-vous, à un moment, au fond, craint le regard des autres sur vous? Avez-vous pensé que c'était peut-être ridicule ou démodé?
Non, ça ne vous est pas venu à l'esprit. Personnellement, non, pas du tout. Non.
Alors, vous allez nous dire maintenant, David, en quoi consiste cette formation? Est-ce que c'est d'abord une formation uniquement intellectuelle? On vous enseigne les rudiments de la religion? Ou est-ce que c'est aussi une formation spirituelle? Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique?
Je dirais les deux.
Les deux en la foi.
Les deux. Disons, l'un appelle inévitablement l'autre. Alors, bien sûr, formation intellectuelle, oui, ça a été le cas énormément au tout début de mon catéchuménat. Ça s'est porté beaucoup plus d'un point de vue intellectuel, je dirais même théologique. Je pourrais même aller jusque-là. Et après, naturellement, j'en suis venu au côté spirituel de la chose. Bien sûr, les deux se sont enchaînés tout naturellement.
Par exemple, ça a développé chez vous la prière?
Ah, tout à fait. Très vite. C'est venu assez rapidement.
Et la pratique religieuse, je suppose,
voilà,
aussi.
Aussi, a suivi immédiatement après. Voilà, tout à fait.
Qui vous accompagne dans cette démarche? Qui est à vos côtés?
Alors, pour donc mon entrée officielle dans le catéchuménat, mon instructeur spirituel est donc le chancelier du diocèse de mon département, donc le diocèse de Sens-Auxerre.
Qui a été désigné? C'est quelqu'un qu'on désigne pour vous?
On ne peut pas vraiment parler de désignation. J'allais presque dire, c'est moi qui l'ai choisi. Enfin, entre guillemets.
Vous le connaissiez donc?
Avant, je ne le connaissais
pas.
Je ne le connaissais absolument pas. En fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'une messe, un dimanche. Et c'est à l'issue de la célébration où je suis allé le voir pour lui demander à devenir chrétien. Donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Et l'autre personne qui vous accompagne?
Alors, l'autre personne qui m'accompagne, qui a été, elle, par contre, désignée par mon instructeur beaucoup plus tard, puisque ça s'est fait au cours du mois de décembre 2009, un petit peu avant Noël. Et c'est une personne laïque, chrétienne pratiquante, bien sûr. Elle a été désignée donc pour faire l'évaluation de la progression de mon catéchuménat de manière mensuelle. Alors on se réunit une fois par mois chez elle, avec mon instructeur, bien sûr. Et voilà, donc on fait le point de ma situation, de mon avancée spirituelle, une fois par mois.
Donc avec elle, vous faites le point et lui, c'est lui qui vous apprend, qui vous enseigne.
Voilà, donc c'est lui qui me dispense exclusivement tous les enseignements spirituels, religieux. Elle ne s'occupe pas de cette partie-là.
Et si vous avez des doutes ou des interrogations, quelque chose que vous ne comprenez pas bien, enfin, vous me direz qu'avec les mystères du christianisme, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien. C'est donc à cet instructeur que vous posez vos questions.
Effectivement, ça a toujours été à lui que je me suis adressé, oui. Soit en le rencontrant directement, puisque tout au long de mon catéchuménat, j'ai le rencontre une fois par semaine. Donc tous les dimanches, après la messe, il reste avec moi à l'église pour me dispenser donc, mon enseignement catéchuménal. Il reste voire une heure, des fois c'est arrivé même jusqu'à deux heures avec moi, il restait après la messe donc pour mon enseignement. Et ça se faisait une fois par semaine, donc tous les dimanches après la messe.
C'est un enseignement intensif.
Ah oui, ça, c'est sûr qu'il est très vite parti sur une ligne d'enseignement très intensive, oui.
Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer votre évêque, l'évêque de votre diocèse?
Tout à fait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Je dirais un peu plus d'une dizaine de fois, je l'ai rencontré jusqu'à présent. Donc c'est Monseigneur Yves Patenôtre, qui est donc l'archevêque de notre diocèse. Et effectivement, j'ai eu d'excellentes relations avec lui et j'ai passé des moments merveilleux avec lui. Et lui aussi, à certaines occasions, m'a enseigné certaines choses, bien sûr. Ça a été absolument extraordinaire.
Vous, personnellement, David, quel est dans cette démarche ce qui vous touche le plus? Quelle est la partie de l'enseignement qui vous intéresse le plus ou qui vous bouleverse, j'allais dire, intérieurement le plus?
Dans les débuts, dans les premiers mois de mon catéchuménat, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est les enseignements dans les évangiles, les enseignements du Christ.
Vous n'aviez jamais lu les évangiles?
Non, c'était ma première découverte des évangiles, je ne connaissais absolument pas avant. J'ai du reste commencé mon catéchuménat par ce qu'on appelle le temps d'évangélisation. Donc mon instructeur m'a initié
à la lecture
et m'a dit de lire en continu donc les quatre évangiles du Nouveau Testament, donc les trois synoptiques et l'évangile de Saint Jean. Donc j'ai fait la lecture complète au début de mon catéchuménat, et c'est là où j'ai véritablement découvert les grands enseignements du Christ. Et ça, ça a été merveilleux pour moi, ça a été vraiment une découverte très très belle.
Et depuis que vous les avez découverts, y a-t-il autre chose qui vous touche particulièrement ?
Eh bien,
la liturgie, par exemple, dans les cérémonies.
Voilà, oui, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, puisque je dois dire que j'ai eu la grande chance que mon instructeur m'ait permis de rester à la liturgie eucharistique lors de la messe, qui normalement dans la tradition catholique ne se fait pas, puisque en principe après l'homélie, les catéchumènes doivent se retirer dans le narthex. Mais mon instructeur a fait une dérogation. Il m'a dit « Ta progression est tellement fulgurante et ta ferveur spirituelle est tellement grande, tu peux rester à l'Eucharistie. »
Vous restez pendant toute la liturgie.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Comment votre vie a-t-elle changé par rapport à ce moment de conversion ?
Ah bah, ça c'est clair que pour moi, je ne me sens plus du tout la même personne aujourd'hui. Ça ne fait aucun doute que ça a été un changement radical dans ma vie. Je ne me sens plus du tout la même personne.
Il y a d'ailleurs une...
Dans la vie, je ne vois plus du tout les choses de la même façon. J'ai une toute autre vision maintenant de la vie quotidienne. Ça, c'est certain. Oui.
Il y a une tradition, je crois, dans la tradition catholique qui veut que l'on soit un nouvel homme quand on est baptisé et donc un nouveau nom. Est-ce que vous allez changer votre prénom, David ?
Oui, on peut parler de changement. Disons que ça va être un ajout. Donc, mon prénom actuel, David, qui était déjà très adéquat dans la religion catholique, puisque tout le monde, j'allais dire, connaît le roi David dans l'Ancien Testament.
Voilà.
Mais donc, le jour de la cérémonie de mon baptême, j'ai choisi d'ajouter donc un deuxième prénom qui sera mon prénom chrétien, donc Marie, et ça sera donc David-Marie.
Donc, désormais, je vous appellerai David-Marie. Le baptême, c'est pour tous les petits comme pour les grands, un parrain et une marraine, vous les avez choisis ?
Bien sûr, tout à fait. Donc, mon parrain et ma marraine sont tout simplement les parents de mon petit filleul.
Un échange de bons procédés,
et voilà,
autrement
exactement.
Dit.
Exactement. Et ça a été en toute amitié. Et je vous laisse deviner qu'ils ont immédiatement accepté avec une grande joie de cœur.
Bien sûr, je m'en doute. Le baptême pour vous, donc vous allez le recevoir dans cette nuit pascale. Est-ce que vous allez considérer que c'est une étape ultime ? Vous aboutissez à quelque chose ? Ou est-ce au contraire le départ de votre nouvelle vie d'une certaine façon ?
Le considérer comme une étape ultime, non, personnellement, je ne le perçois pas, moi, comme une étape ultime. Je le perçois plutôt comme une renaissance, une véritable renaissance, une nouvelle vie, bien sûr spirituelle, mais pour moi, c'est avant tout une renaissance. Pour aller de l'avant dans ce milieu et former mes projets, j'ai quelques projets en tête à l'issue de mon baptême, et notamment après ma confirmation, donc, qui aura lieu à la Pentecôte au mois de juin.
Voilà. Ah oui, immédiatement après.
Voilà, donc la veillée pascale, je vais donc recevoir les sacrements du baptême et la communion. Donc ça sera le même jour. Et l'évêque me confirmera donc au mois de juin à la Pentecôte.
Bien, nous vous souhaitons un bon cheminement spirituel dans cette démarche, David. Et bientôt, nous espérons pouvoir vous appeler David-Marie. Et merci de votre témoignage.
Merci infiniment, Madame Renard.